Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Tu me fends le cœur, hein.
Oh, allons, César.
Les grandes gueules du sport.
Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur.
Jean-Christophe Drouet.
11h07 de retour dans les grandes gueules du sport, le samedi et le dimanche, de 9h à midi, 3h de débat, de bonne humeur avec Christophe Cessieux, David Douillet, Denis Charvet, Marc Madiot ce matin. Alors 11h45, chers auditeurs, vous aussi vous êtes des grandes gueules, vous voulez directement interpeller une GG sur l'émission de ce matin, sur un thème qui vous tient à cœur, un seul mot d'ordre, le 32-16, appelez-nous et venez répondre, venez débattre directement avec une GG. 11h30, le fameux débat caché, les GG ne savent rien pour l'instant et pour l'instant, elles vont devoir débattre. Voilà, je remets les mots dans l'ordre tranquillement. Le débat caché, d'après vous, c'est quoi ce matin comme débat caché, Denis Charvet?
Golf. Avec...
Il n'y a pas de golf en ce moment. Enfin,
qu'est-ce débat que caché, j'aurais... Ça peut être... j'aurais parti sur Antoine Dupont, mais on va en parler. Donc,
ok, d'accord, merci. Okay, il n'a pas d'idée sur le débat caché.
Oui,
très bien, ça ne t'intéresse pas.
Moi, je reste sur Briatore et...
Briatore, Alpine et tout ça, mais oui. toutes les semaines, très bien.
Tant qu'on ne l'a pas fait.
Ok. Je vois que c'est un coup de pression, très bien, Marc, tu as compris. David,
Moi je pense que tu vas nous faire un sujet autour des jeux, la parenthèse de ces jeux. Est-ce que la France a changé, par exemple?
Est-ce que la France a changé? La France du général de Gaulle,
la France du général de Gaulle.
Elle a changé, hein. Très bien. Pourquoi pas?
C'est une bonne idée, non?
C'est une très bonne idée. Mais
on le fera
débat.
Pas. On le fera pas.
David Douillet.
Moi, je vais rester dans l'actu et je vais rester avec le nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui va devoir faire une grande action d'ici début octobre pour le sport français. Alors, laquelle c'est? Je pose la question.
Avec quel ministre du sport?
T'attends toujours.
Non. Ça n'a rien à voir.
Moi, je pense que Tony.
Ça n'a rien à voir. Essayez de vous creuser la tête. Il doit faire quelque chose pour l'avenir du sport français. C'est quoi?
Un débat sur qui va être le nouveau ministre des Sports.
Non. Il doit faire une action. Une action pour un grand projet du sport français.
Ouais. Ok. Bah voilà, c'est la proposition
gagné,
de David.
Bon, c'est les jeux. 30, les jeux sont terminés. Autant dire que là, la réduction de budget, ça va être sévère.
Ah oui.
Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Sacha Guitry qui a dit un jour, à force de changer de femme, on finit par changer soi-même.
RMC, les grandes gueules du sport, passe la seconde.
Il est là, Antoine Dupont, sous l'ovation du Matmut Atlantique. On pensait pas le voir si tôt de retour sur un terrain de rugby à 15.
On ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Il a choisi une ouverture, une parenthèse qui sera le rugby à 7 et les Jeux Olympiques. Et je l'en félicite une fois de plus parce que je trouve que c'est bien de respirer, de sortir du cadre.
Capitaine, je sais pas, ça va. Je ne le sens pas bien.
Je savais que ça serait une année chargée pour moi, avec des objectifs très élevés. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mettre tous les moyens possibles pour essayer d'être le plus performant dans toutes les compétitions où j'étais engagé.
C'est pas juste, c'est toujours les mêmes qui prennent les risques.
Je vois mal comment un des joueurs les plus doués de sa génération ne puisse pas s'adapter.
C'est beaucoup trop dangereux.
Après, j'aurai quand même quelques jours pour décompresser avant de me replonger dans le prochain objectif qui sera tout aussi immense.
Un jour, ça finira mal.
Il va la jouer rapidement encore. Est-ce que c'est lui qui va y aller?
C'est le grand retour du top 14 ce week-end avec de nouveau le grandissime favori, le Stade Toulousain. Les Rouges et Noirs vont pouvoir enfin profiter un peu de leur effectif XXL et notamment, évidemment, Antoine Dupont, même s'il ne reprendra la compétition que fin septembre. Après une semaine, une saison exceptionnelle avec le rugby à 7, la star du rugby français revient aux fondamentaux, le 15. Ou presque, hein, les fondamentaux, parce qu'il veut se lancer un nouveau défi, changer petit à petit de poste et jouer au centre. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Antoine Dupont, qui veut changer de poste? Est-il en train de s'éparpiller? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Mais non, au contraire.
Mais non,
tu
au contraire.
Rien, rugby, c'est une catastrophe quand même.
Eh bien, j'attends que vous me fassiez la leçon dans quelques instants. Marc Madiot.
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du rugby, mais je pense qu'il fait une erreur.
Il fait une erreur, donc c'est oui. David Douillet.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Je suis d'accord.
Denis Charvet.
Non.
Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste rugby, c'est Wilfried Templier. Rebonjour Wilfried.
Rebonjour.
Antoine Dupont, c'est vrai, a toujours besoin d'un nouveau challenge, et là, il est question de poste. Hein.
Ouais, c'est un joueur de défi, capable d'être le meilleur du monde au poste de demi-mêlée, mais capable aussi de pousser les gens à s'interroger, de savoir s'il n'est pas aussi bon, voire meilleur à l'ouverture, par exemple, poste où il joue souvent, sans qu'il y ait quoi que ce soit à redire sur ses performances. Il a voulu relever, tu en as parlé, le défi du rugby à 7, on a vu le résultat, champion du monde et médaille d'or olympique. C'est un surdoué, donc c'est un surdoué, et pour rassasier, entre guillemets, les surdoués, il faut leur proposer des choses ou écouter ce qu'ils pensent. Et le manager toulousain, Hugo Mola, là, entend ça. Écoutez, c'était cette semaine chez nos confrères de Via Occitanie.
Antoine est le meilleur à son poste. Il a aussi des fourmis dans les jambes et il a forcément envie d'être exposé un petit peu ailleurs. Alors, il y a eu le poste de numéro 10, mais aujourd'hui, Thomas Ramos et Romain, évidemment, mènent bien la barque à ce poste-là. Et c'est vrai qu'Antoine, au poste de centre, et notamment de 13, a envie de pouvoir tenter quelques rencontres. Donc, oui, on a envie de l'exposer, mais l'exposer, c'est pas aussi le fragiliser. Donc, il faut trouver la bonne carburation, la bonne mesure. Mais oui, Antoine sera exposé à d'autres positions.
Deuxième centre, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis le printemps déjà. Mola nous l'avait même dit en conférence de presse à l'époque. Alors c'est pour essayer, c'est pas pour l'installer définitivement. Et puis, cette polyvalence, c'est quelque chose de prégnant au Stade Toulousain depuis des mois. On tente de bouger les joueurs sur le terrain et ça amène toujours quelque chose à l'équipe, selon le manager toulousain.
En fait, le rugby, au-delà de l'aspect stratégique et du contenu au poste, une fois que vous avez sorti ça du contexte, le plus important, c'est d'avoir les bons joueurs sur le terrain. Et honnêtement, on a des joueurs et des garçons qui sont réellement protés, doués, qui ont un talent fou. Et de les enfermer parfois dans un... J'ai entendu, et même des coachs qui m'ont expliqué que comment on pouvait faire jouer Antoine Dupont ailleurs qu'en neuf. Mais c'est ce que ça nourrit chez lui. C'est peut-être que c'est un échec sur l'immédiateté, mais dans ce que ça a nourri chez Antoine, dans ce que ça a nourri chez Romain de jouer au centre, chez Thomas de passer 10, chez Blair Kingham de passer à l'aile, chez Juan Grossmania de jouer à d'autres postes, ça nourrit des choses. Et donc après, on a, quoi qu'il arrive, de meilleurs joueurs à la fin.
Donc même si au final ce n'est pas concluant, on se dit que le fait de faire jouer Dupont au centre, ça ne va pas, quoi qu'il arrive, faire de lui un moins bon nuit de mêlée. Il y a de la marge pour ça, mais ça pourra l'amener encore une fois à être un joueur différent.
Parfait, merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Antoine Dupont est-il en train de s'éparpiller, oui ou non, le 32-16?
T'as eu la réponse là, non?
L'application RMC Direct Studio.
T'as eu ta réponse?
Ah non, j'ai pas eu ma réponse.
Comment ça t'as pas eu ta réponse?
Ah pour moi c'est oui, il est en train de s'éparpiller, oui. Pourquoi non Christophe Cessieux?
Non.
Pourquoi il ne s'éparpille pas? Mais d'abord parce que je trouve qu'en s'éparpillant, il devient meilleur. Et c'est ce que vient de nous dire Wilfried, et c'est ce que vient de nous dire Hugo Mola. L'année dernière, tu étais le premier à critiquer. Oui, il va aller jouer à 7, c'est pas bien. Il délaisse le 15 de France. Regarde ce qu'il a fait. Il est devenu champion olympique. Il a été le premier avec son équipe à apporter la médaille d'or. Il a donné le là de ces Jeux Olympiques à l'équipe de France. Et là, tu es encore à le critiquer. Il ne faut pas qu'il change de poste et tout.
Voilà, mais non, mais
là on y est là.
Mais non, mais franchement, mais arrêtez, ce mec-là est un, comme le disait Hugo, un joueur proté. Les dieux se sont penchés sur son berceau. Ce mec-là, il pourrait jouer quasiment à tous les postes, sauf en deuxième ligne dans une équipe de rugby.
Pardon,
en deuxième
mais quand
ligne, il est un peu trop petit. Bon, il faudrait qu'il mange un peu de soupe.
Quand c'est le meilleur du monde à son poste, mais pourquoi il a besoin de le changer?
Et alors, et parce que ces gens-là, comme le disait Mola encore une fois, ont besoin d'être nourris, ont besoin de nouveaux challenges, ont besoin de se mesurer à d'autres choses. Tu trouves, moi je pense qu'en allant à 7, il est devenu un meilleur rugbyman et il a apporté ce titre à l'équipe de France. Il a progressé dans des domaines.
Mais qu'aurait-on dit? Qu'aurait-on dit à Zinedine Zidane?
Mais va présenter un jour une émission de variété. Je suis sûr que tu deviendras meilleur.
Ah, ça,
et t'adorerais. Et pourtant t'es bon dans cette émission-là. Mais tu rêves d'aller faire autre chose. Pourquoi lui n'aurait pas le droit d'aller faire autre chose? Mais je te connais. Je sais que t'as un jour envie de la machette et Interville. Je sais que bien sûr que oui.
Wilfried, non. Ça et on propose Interville, mais bien sûr,
ben
on
voilà,
signe.
Et ben
oui.
Alors, non, attends, et ben alors attends. Pourquoi toi non, et, pas, attends, et pas Dupont
attends. On parle de sportifs de haut niveau, ok. On parle, moi je te fais la comparaison avec Zidane. Alors c'est vrai que c'est pas le même sport, on
non,
est d'accord.
C'est pas le même
non, mais ok, mais quand même,
ouais,
Zidane, si Zidane arrive et qu'il dit, ben moi ça m'intéresserait bien d'aller faire une année au futsal, ok, va faire du futsal. Après il revient en équipe de France, ben moi j'aimerais bien qu'on m'essaye en 6. Alors en 10, c'est vrai que je suis bon, non, je suis le meilleur à mon poste, mais pourquoi pas m'essayer en 10? À un moment donné, même pour le Stade Toulousain, et Marc, je te lance la main, parce que pour toi c'est une erreur. Quand t'as le meilleur joueur du monde à son poste, faut en faire profiter toute son équipe, Marc.
En vélo, Marc, il y a des mecs qui sont spécialisés dans un truc et ils changent de registre.
Oui, ça marche pas toujours.
Ah, ça marche pas toujours. Voilà. Mais en l'occurrence avec Dupont, ça marche toujours.
Qui te dit que ça marchera?
Écoute, il faut. Qui ne tente rien n'a rien.
Moi, je suis pas un grand spécialiste de rugby, donc moi le seul sujet par rapport à ça, c'est que quand on commence à aller dans toutes les directions, on finit par se perdre. ce qui compte, c'est d'avoir une ligne et un chemin. Et aujourd'hui, il sait ce qu'il peut faire, il le réalise bien, il est le meilleur dans son jeu et dans son poste. Pourquoi systématiquement essayer d'aller tenter le diable ailleurs? C'est tout ce que j'ai envie de dire. Après, je peux comprendre et entendre qu'il a envie d'essayer autre chose, mais c'est toujours sujet à risque. C'est tout.
Moi, oui, mais il ne faut pas voir Antoine Dupont comme un joueur comme un autre. C'est ça la vérité.
Mais l'équipe de France en a besoin où d'Antoine Dupont? Ils n'ont pas besoin d'Antoine Dupont à l'aile.
Quand Wilfried parle de surdoué, c'est là où il faut regarder ce garçon. C'est-à-dire que c'est pas un joueur de défi, c'est un homme de défi. Je crois qu'il a besoin de se réinventer.
Oui, mais je crois que c'est sa façon. Il a trouvé tout de suite un beau défi, la Coupe du Monde.
Oui, mais la Coupe du Monde.
Bien sûr,
mais là où vous me prenez.
Mais il ne jouera pas une équipe du monde. Il fait gagner la France en Coupe du Monde.
Il jouera pas en équipe de France au centre. Là, c'est pour rendre des services dans son club.
Mais ils en ont pas besoin, le Stade Toulousain. Mais
c'est lui. T'as pas compris. C'est pas le Stade Toulousain qui en a besoin.
C'est lui qui a besoin de se nourrir
d'autre chose. Il était se nourrir à 7. Il a progressé sur des secteurs de jeu. Même lui, il l'a dit, il l'a avoué. Sur les rucks, il savait pas trop il a progressé dans ce secteur-là. C'est un mec. Moi, je pense qu'il faut pas regarder ce mec comme un autre. Voilà, moi, je le connais un peu. C'est un surdoué. Ouais, vraiment, je sais pas comment me dire de plus. C'est un phénomène. Tout ce qu'il touche, tu le vois jouer au tennis. Il joue de la main gauche, de la main droite. Non, mais je te jure, c'est
moi. Il me fait penser à un garçon. Je voudrais faire la comparaison avec Tadej Pogacar. Tadej Pogacar est un surdoué, comme Antoine Dupont le rugby. Et Tadej Pogacar, eh bien, on aimerait bien le mettre dans le registre de coureur de grand tour. Et le mec, eh ben, il aime s'éclater. Il aime aller sur les classiques. Il aime garder les classiques, gagner les classiques. Et je suis sûr qu'un jour, il va aussi essayer de s'aligner sur Paris-Roubaix et qu'il gagnera Paris-Roubaix. Alors que tous ces directeurs et ces directeurs sportifs disent oh là là, quel risque tu prends. Si tu fais ça, tu vas pas gagner le Tour de France. Ben ouais, mais il faut arrêter d'être frileux dans le sport. Il faut justement laisser les mecs surdoués se faire plaisir dans le sport. Autrement, tu fais toujours la même chose.
Le seul risque qu'il peut y avoir.
Être moins bon là.
Non, non. Mais justement, alors moi, je vais pas dans ce sens-là, Marc. Le risque qu'il y a, c'est qu'il soit très bon. C'est ça le risque.
Ah oui, d'accord. Ok, tu prends. On ouvre une parenthèse. Je pars olympique et ensuite on continue le débat sur Antoine Dupont.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
On retrouve tout de suite en direct de Vers-sur-Marne Cédric Chasseur, notre commentateur pour la grande finale de Rémi Boulet en paracanoë. Bonjour Cédric.
Salut JC, salut les GG, salut tout le monde. Et évidemment Vers-sur-Marne qui vibre pour Rémi Boulet, puisque le public a vu les beaux cheveux rouges de Rémi Boulet sur la ligne d'eau numéro 3 dans son kayak. Il est prêt à partir dans cette finale. Il a réalisé le meilleur temps des demi-finales, médaillé de bronze à Tokyo il y a 3 ans. Il va retrouver notamment les deux qui avaient terminé devant lui au Japon, le Hongrois Peter Kiss, qui sera juste à côté de lui à la ligne d'eau numéro 4, médaillé d'or à Tokyo, et Luis Carlos Cardoso, le Brésilien, ligne d'eau numéro 5, lui était médaillé d'argent. On pourrait donc retrouver le même podium, on espère, avec un ordre différent évidemment. Les bateaux sont en train de s'installer sur la ligne de départ. C'est un 200 mètres, ça va aller très très vite, environ 45-50 secondes pour cette finale. Les 8 concurrents ont pris leur marque. On est dans une catégorie où il y a des pagaies doubles, c'est-à-dire qu'ils vont pagayer des deux côtés. Et c'est parti pour cette grande finale du 200 mètres kayak KL1 avec un bon départ pour le Français à la ligne d'eau numéro 3 et qui pour l'instant est à la lutte pour cette médaille d'or. Peter Kuss, le Hongrois, a pris la tête, et Cardoso, le Brésilien, est au coude à coude avec le Français. Pour l'instant, la médaille d'or est en train d'échapper à Rémi Boulet, qui est troisième au coude à coude avec le Brésilien Luis Carlos Cardoso. Ça risque d'être plié quasiment pour Peter Kuss, qui va aller remporter comme à Tokyo l'or. Allez, maintenant il ne faut pas craquer. Attention, il est en train de perdre quelques mètres d'avance par rapport à Cardoso. La victoire de Kuss avec la deuxième place pour Cardoso et la médaille de bronze, la troisième place pour le Français Rémi Boulet. C'est le même podium qu'à Tokyo il y a 3 ans.
Merci beaucoup Cédric Chasseur, une nouvelle médaille donc pour la délégation tricolore, mais ce n'est pas une médaille d'or pour Rémi Boulet. Sachez qu'il y a quelques instants, ça va intéresser Marc forcément, en course sur route, deux nouvelles médailles de nos Français, l'argent pour Perroton d'Arthez et la médaille de bronze pour Lautet. Bravo à notre équipe de France évidemment.
Je ne sais plus à combien de médailles on est en paracyclisme, c'est un truc complètement dingue hein.
C'est incroyable hein. En tout cas
moi, je m'y perds, là.
Les Jeux Paralympiques, c'est à retrouver sur la radio digitale 100% bleu. Allez, revenons à notre débat, Antoine Dupont. Avant d'écouter David Douillet, notre question, c'est Antoine Dupont est-il en train de s'éparpiller ? Une précision avec Wilfried Templier, parce que on imagine, Wilfried, que c'est ce jeu à 7 qui lui a permis d'entrevoir une possibilité à 15, c'est ça ?
Disons que c'est, il a découvert, ou je sais pas s'il l'a découvert, mais à 7, l'essence du 7, c'est aussi le 1 contre 1, hein, et on l'a vu, il est quand même assez inarrêtable en 1 contre 1, et les espaces qu'il y a à 7, puisqu'il y a moins de joueurs sur le terrain, évidemment, donc ça peut alimenter ça, le fait qu'on le positionne en deuxième centre, au rugby, deuxième centre, eh bien, il y a de l'espace, justement, il y a du 1 contre 1 avec le vis-à-vis, et donc, Antoine Dupont, il a des jambes, il a du physique, et c'est totalement, c'est vraiment pas incongru de vouloir le passer en deuxième centre. Vous avez vu les courses qu'il a fait à 7 et les duels qu'il a gagné depuis des mois. Imaginez à 15, ça peut apporter aussi. Alors qu'une mine mêlée, c'est vrai que c'est dans un plus petit périmètre, pas tout le temps, mais
c'est davantage surveillé même de mine mêlée.
Ok, David Douillet.
Moi, je pense que tout ça est mûrement réfléchi et que c'est très intelligent. En fait, le 7 lui fait découvrir les choses, certes, mais le fait d'aller sur d'autres postes va le faire progresser sur son poste initial, c'est certain. Et il a compris ça. Donc, il a cette capacité à comprendre, à apprendre et à retranscrire très vite et à évoluer très vite, parce que, comme tu l'as dit, Denis, c'est un vrai génie. Et les génies ont besoin de sentir une fois, ont besoin d'une explication, et ils le mettent en application immédiatement. Et c'est ce qui se passe. Donc, en réalité, il s'éparpille pas du tout. Il est en train de se construire et d'une manière très intelligente. D'extérieur, oui, on a l'impression qu'il part à droite, il part à gauche, le rugby à 7, etc., tel poste, tel truc, tel machin. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est en train de prendre des briques supplémentaires pour construire et renforcer ce qu'il est déjà à l'initial.
Non, mais la question qu'on se pose aussi, c'est parce que évidemment, et tu le disais tout à l'heure, Christophe, tout le monde a vibré avec Antoine Dupont et ce rugby à 7. Il a été formidable et qu'il se lance de nouveaux défis. À la rigueur, on peut trouver ça formidable, mais il y a des partenaires tout de même avec lui. Il y a quand même une conséquence quand même pour Antoine Dupont. Il y a des partenaires. Par rapport au Stade Toulousain. Oui. Et puis après, pourquoi pas en équipe de France si ça marche bien. Est-ce qu'il faut retirer un centre? Est-ce qu'il faut le mettre dans une autre place? Non, mais à un moment donné, s'il veut tenter des choses, c'est aussi pour jouer au plus haut niveau. C'est pas juste pour jouer avec ses copains.
C'est aujourd'hui.
Mais il y a de plus en plus de polyvalence. Aujourd'hui,
j'ai dit exactement l'inverse.
Je sais, mais moi j'essaye de vous relancer là-dessus sur le côté. J'ai bien compris, David. On n'est pas d'accord sur cette question.
Mais la question se pose pas.
Se lancer des défis, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas aussi une usure de ce qu'il fait?
Il gagne tout. Le problème, c'est qu'il aime, qu'il a pas gagné, c'est la Coupe du Monde.
Est-ce qu'il aime son poste?
C'est pas des défis.
C'est un joueur hors norme. Le problème, c'est que je te répète ce que j'ai dit tout à l'heure, faut pas voir Antoine Dupont comme un joueur lambda, comme un autre joueur. Il est unique même dans l'histoire du rugby français. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que ce mec, il a des aptitudes, des qualités que personne n'a eues, voilà. Et face à la pression, il est complètement hermétique. Il joue comme s'il jouait dans son jardin. Non, mais il est fascinant parce que ce garçon, il peut jouer partout, non. Mais il peut se lancer les défis et il va réussir.
Très bien, mais il y a un côté un peu, on défend Antoine Dupont et on a très envie de le défendre. Moi, on a même pas envie. Pas. C'est même pas de le défendre, c'est qu'on n'a pas envie de l'attaquer.
Mais laisse-le vivre sa vie s'il a envie de faire autre chose. Non, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais moi, je trouve super.
Alors, imagine Kylian Mbappé qui dit bon, à gauche, j'ai assez prouvé. Maintenant, je veux aller à droite.
Mais qu'est-ce que tu compares le foot au rugby? Tu peux pas comparer ces deux sports.
On peut pas comparer, Marc.
Je peux entendre qu'on ne puisse pas comparer le foot, le rugby et d'autres sports. Je suis pas assez compétent en rugby pour pouvoir me permettre de dire ça. Mais le danger de ce type de situation, c'est qu'on se perde en route et qu'on atténue les qualités qu'on a dans un poste qu'on maîtrise bien. Voilà, c'est juste
ça. Mais pas avec Antoine. J'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. T'as pas forcément tort.
Le bénéfice.
Vas-y, David.
Le bénéfice de cette situation, c'est précisément d'aller progresser dans quelque chose dont on n'est pas initialement prévu, etc., etc., et de revenir avec cette plus-value. Moi, je pense que je reprends l'exemple de Mbappé d'aller à gauche plutôt qu'à droite. Ça serait bénéfique. Ça serait bénéfique pour son jeu initial. C'est-à-dire que c'est pour moi, je considère que c'est du complément. On va essayer d'autres attitudes, d'autres postes, etc. On va prendre les informations, on va progresser dans des situations où on n'a pas encore évolué pour encore renforcer les basiques initiaux.
Okay. Je suis sûr on n'aurait pas se poser la question parce que je trouve génial que ce mec-là prennent ces risques-là. Parce que la vérité, c'est son confort, c'est de rester demi de mêlée, de jouer au poste qu'il connaît bien, qu'il connaît parfaitement, où il est le meilleur du monde à ce poste. Et bien là, il a quand même un truc fou. Et c'est qu'il va à 7, il le décide. T'en connais beaucoup de sportifs de haut niveau qui sortent
de
leur confort.
Si tu me demandes est-ce que c'est un sportif d'exception, il y a pas de débat.
Oui, mais il sort de son confort. La vérité, c'est qu'il devrait rester dans son confort. Mais aujourd'hui, non, il dit je vais aller essayer un truc.
J'ai bien écouté Vincent Moscato hier qui disait son poste, c'est le meilleur du monde. En centre, ce sera un joueur moyen.
Il n'en sait rien, Vincent.
Il est quand même un peu spécialiste de rugby,
vraiment.
En tout cas, c'est son avis.
Non, mais okay. Mais imagine qu'il devienne un des meilleurs centres au monde. Tu le sais, toi aussi, il ne peut pas devenir le meilleur centre du monde. J'en sais rien. Moi, je pense que ce garçon, il n'a pas de limite.
Ok. Alors, j'ai cru comprendre que son poste initial, c'était plus influent dans le rugby.
Sauf qu'il a grandi, il est devenu vert.
Lilian nous appelle au 32-16. Il veut réagir. Bonjour, Lilian.
Bonjour à vous.
Tu veux réagir ou tu veux me taper dessus?
Un peu des deux.
Vas-y, tape un peu dessus, ça me fera.
Comme tout le monde l'a dit. En fait, pour moi, je vois le sport, le rugby, comme une entreprise. Et là, il veut devenir le meilleur dans son sport. Donc, pour devenir le meilleur dans son sport, il a besoin d'évoluer partout, de prendre du plaisir. Et les meilleurs joueurs, c'est des joueurs qui prennent du plaisir. Donc, s'il prend moins de plaisir en neuf, eh ben pourquoi pas le changer? Et finalement, Hugo Mola l'a dit, il est peut-être dans la meilleure équipe où il peut changer parce que toutes les lignes arrière peuvent jouer à tous les postes. Donc ça choquera pas ses partenaires vu que en centre Malia peut jouer 10, peut même le remplacer en 9. Donc pour moi ça donne un intérêt de le faire et je vois pas pourquoi au rugby ça choquerait alors qu'au foot par exemple, Guardiola à City, il met des attaquants en milieu ou en défenseur et on dit que c'est un génie.
Oui, mais t'as pas de joueurs qui disent « Attends, mais moi je veux essayer autre chose parce que je suis un peu blasé de mon poste initial ». Bref, c'est un débat qu'on pourra avoir. Justement, Lilian, reste avec nous au 32-16. Merci d'avoir été avec nous. Parce que dans quelques instants, il y a le débat caché. Et le débat caché rejoint un peu ce débat, Antoine Dupont. On a été un peu coquin. Et j'espère que vous n'allez pas me dire totalement le contraire de ce que vous venez de me dire. J'essaye de vous coincer, de vous piéger. Merci Wilfried Templier.
Ouais. Je te mets ma main coupée qui jouera la Coupe du Monde en Australie en poste de demi de mêlée.
C'est pas toi qui va jouer.
S'il joue 5 matchs dans l'année au centre, et c'est pour amener quelque chose.
C'est pas toi qui va jouer, Wilfried.
C'est le grand retour.
Ni toi, mon vieux.
Merci Wilfried. C'est le grand retour du top 14. Ce week-end, 14h30. Bayonne-Perpignan. Voilà, c'est pour le premier match de cette première journée. Et le Stade Toulousain affrontera demain à 21h05 la modeste équipe de Val.
Génial. C'est demain soir,
21h05. Sans Antoine Dupont. Hein. 11h30, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché qui fait écho à ce qu'on vient de faire sur Antoine Dupont. A tout de suite.
RMC, 9h midi.
Un jour en ville de la machette et interdit.
Les grandes gueules du sport.
Et on propose interdit, mais bien sûr.
Ben voilà.
Jean-Christophe Drouet.
Là, 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 là. Et bienvenue aux concurrents de Mont-de-Marsan.
Il n'y a plus de machette.
On aura une chèvre à la place.
Je suis là, avec grand plaisir. Elle a mis du temps à venir, la vanne. Hein.
Ouais,
11h34, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche, de 9h à midi, avec Christophe Cessieu, David Douillet, Denis Charvet, Marc Madio. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous êtes des grandes gueules, vous composez le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour? C'est très simple, vous venez lui dire en face. Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur l'émotion. À ce sujet, choisi en secret pour vous, le guet-apens du jour, c'est ça.
DePlantis gets the best start as expected, but Verhoeven is right there with him. DePlantis has not given this up, though. Verhoeven tried to chase him down, but DePlantis continues to go away. DePlantis gets it with a look back, 10:37. That is quick.
Mercredi soir, en marge de la Ligue de Diamants de Zurich, le roi de la paire, oui. Charmant Duplantis et le roi du 400 mètres haies, Carsten Warholm, ont réalisé un duel formidable. Ils se sont affrontés sur 100 mètres et chrono impressionnant pour le perchiste suédois. 10 secondes, 37 centièmes. Alors, pour vous donner une idée de la performance de, pour un non-spécialiste de la discipline, déjà, Duplantis aura obtenu le titre olympique sur chaque édition des Jeux de 1896 à 1956. Avec ses 10-37, eh bien, il pourrait détenir la meilleure performance de l'histoire dans 58 pays. Il est d'ailleurs devenu le quatrième meilleur performeur suédois de l'année. Et au niveau français, bah avec 10-37, il pourrait tout simplement participer à la finale des championnats de France. Alors cette course pour le fun, bah pourrait lui donner des idées. Et forcément, nous pensons au décathlon. Lui qui, à l'inverse d'Antoine Dupont, n'a plus rien à prouver dans son sport et qui bat à chaque fois son record d'un centimètre. Antoine Dupont, j'allais dire Antoine Dupont. Ouais, oui. Monto Duplantis, doit-il se lancer dans le décathlon? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Le décathlon, c'est
difficile. Oui ou non, oui ou non.
Mais attends, je sais pas ce qu'il vaut au lancer du poids.
Mais
je sais pas ce qu'il vaut sur.
Oui ou non. Oui ou non. Est-ce qu'il doit faire autre
non,
chose?
Non, l'état ouais. des choses, non.
Non, ok.
Non, il faut
Marc Madio.
Non,
David Douillet.
Bien sûr que oui.
Bien sûr oui.
Ah oui, moi ça me plairait.
Ça te plairait. Bah vas-y, tu commences.
Non, mais c'est je découvre ton débat caché, mais c'est j'avais pas du tout pensé que ce gars-là pouvait effectivement se lancer dans le décathlon, mais. Ouais, on parlait de Dupont tout à l'heure, je crois que c'est le même, quoi. Donc, c'est un surdoué, quand tu fais ce qu'il fait en course, ça veut dire qu'en longueur, il pourrait être très bon. Forcément.
110 mètres haies, bon, faut un peu, faut 110 mètres haies, faut de la technique,
mais après, sur le saut en hauteur, il n'y a pas de raison, si tu vas vite et que, non, mais de toute façon, il a les aptitudes. Ce serait intéressant de voir, oui. Ce serait intéressant après. Je pense que ça se fera jamais.
Non, mais lui, il a tout accompli pour le coup. Il a aucune concurrence dans son sport. Et c'est non, ça.
Il a aucune concurrence, mais il faut quand même qu'il reste au plus haut niveau. Et là, c'était dans le cadre d'un meeting, non?
Oui, exactement.
Oui, donc dans le cadre d'un meeting, il y avait un contrat.
Oui, mais.
Donc là, il a fait une pige.
Au décathlon, ça veut dire que.
Il a pris un peu de thunes, tant mieux pour lui.
Oui.
Ça anime les débats, puisqu'on est en train de débattre sur ça aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être un peu honnête et réaliste. Duplantis va rester un sauteur à la perche le temps qu'il sera un sportif de haut niveau.
Non, mais est-ce que tu aimerais le voir
pas
faire
forcément,
le
non.
C'est ça, la
j'attends
question.
Mais j'attends qu'il aille le plus haut possible. En soit à la perche.
Non, mais c'est un garçon qui pourrait facilement, assez aisément faire du décathlon, parce qu'il reste.
Mais à quel niveau tu penses, toi?
Parce que mais à un très bon niveau, parce que en fait, il reste dans sa dans son secteur,
dans sa zone de confort.
Tu vois, c'est la zone de confort. Mmh. À part le 1500.
Et encore.
Où là, on est dans du demi-fond. Et encore, tu as raison. Mmh. Mais tout le reste, le 100 mètres, le 100 longueur, le lancer de poids, tout ça, c'est de l'explosion, quoi. Tu vois. Mmh. Tout ça, c'est dans son axe physiologique, tu vois.
David, il vaut quoi du plantis au lancer du poids? Il vaut quoi du plantis au lancer du javelot ou au lancer du disque?
Ça, c'est rien.
Si tu. T'en sais rien, a priori, il en a jamais fait.
Il est complet.
Non, mais tu peux faire du décathlon, c'est-à-dire qu'avec la perche et le 100 mètres,
il serait force dans les bras. Avec,
il faut la technique, je veux dire, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Il peut peut-être à long terme y arriver, mais Duplantis, s'il fait un truc, c'est pour gagner. C'est pas pour être dans les etc. Et je pense que sa technique de lancer. C'est Renaud Longuev qui dit ça. Je viens de trouver la déclaration. Il dit, au décathlon, c'est compliqué de dire il vaut 8000 points parce que je n'ai aucune information sur sa capacité à lancer. S'il se lance le poids sur le pied ou s'il ne dépasse pas 35 mètres au javelot ou au disque parce qu'il n'a pas la technique, c'est impossible d'estimer un bon total. La vitesse sur 100 mètres, c'est bien, mais le décathlon, c'est quand même très technique.
Alors,
voilà. Donc, s'il veut, il peut le tenter. Enfin, il peut le tenter. Mais il sera, je n'imagine pas champion olympique, de décathlon en débutant les lancers aujourd'hui.
Il
quoi.
A déjà beaucoup de
quand tu vois, quand tu vois, quand tu vois la...
David,
allô,
vas-y.
Allô, oui. Quand tu vois la chaîne musculaire que tu dois mettre en action pour passer une barre à plus de 6 mètres, t'imagines bien qu'il est en capacité assez rapidement de mettre une chaîne musculaire pour lancer un poids, pour sauter en hauteur, pour lancer un disque, pour lancer un javelot, etc. C'est sûr. C'est sûr. Après, la qualité musculaire, il l'a aussi.
Mais pourquoi tu t'es pas lancé dans la lutte? Voilà, moi je veux la reconversion de David Douillet à la lutte. Je suis sûr que tu serais très bon. Non?
Ben oui, oui, oui.
Bon, alors, à quand, à quand un duel avec Fred Weiss sur un tapis et tous les deux avec la magnifique tenue des lutteurs? Moi je demande à voir. Voilà.
Très bien. Juste pour revenir à nos moutons, avec ses performances, là, 10-37.
Mais non, mais pourquoi pas?
Admettons, dans un décathlon, il fait 10-37. Bon, comme il vient de faire là, il fait 6m26, même si évidemment un décathlon, la perche arrive en 7e épreuve, je crois, ou 8e épreuve.
Quand il est premier,
il ne fera pas 6m26. Mais admettons, il fait 6m26 et 10m37, il cumule déjà 2324 points. Évidemment, pour atteindre les 8800 points pour être médaillé d'or olympique, il ne faut pas faire 2-0 sur une autre épreuve. Ça, je suis d'accord. Mais la question qui nous amène, et la question qu'on se posait avec Antoine Dupont, c'est qu'à un moment donné, Mondo Duplantis, il veut faire du 100 mètres, évidemment, c'est un défi, c'est pour se marrer. Antoine Dupont, il veut faire du rugby à 7. Il y a LeBron James, cette semaine, dans un podcast, qui dit « Je pense que je pourrais peut-être faire du saut en hauteur ou en longueur si vous me donnez un peu de temps. J'ai besoin d'environ 6, peut-être 8 mois de préparation pour le faire. » Est-ce que là, on est arrivé dans une sorte, un petit peu comme un tout à chacun, où on a envie d'une seconde vie, on ne fait pas qu'un métier dans notre vie, on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4. Ben, le sportif, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le sportif, il se lasse un peu vite.
Oui, mais
et il a envie de faire autre chose.
Je trouve que ça a évolué. Ça évolue bien. Vite. Parce que justement, évidemment, bien sûr que tu lasses vite.
Mais on dit toujours que la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est quand même, assez réduit à l'échelle d'une vie.
10 ans.
D'un travailleur classique, vous voyez?
Oui, c'est 10 ans.
Mais il faut.
Oui,
il...
mais,
Vas-y, David.
Le truc, c'est que dans des sports compliqués comme qui demandent énormément d'entraînement, qui demandent énormément d'intensité, qui demandent énormément de cardiaque, etc., etc. Enfin, tu vois, des sports complets de cardio. Bien sûr que tu te lasses pendant ta préparation. Aujourd'hui, les athlètes varient en permanence leur prépa pour casser la monotonie, pour faire autre chose, pour trouver un renouveau, pour progresser un peu plus, parce que tu plafonnes tout le temps.
Oui, mais de là passer le Rubicon et de faire un autre sport où tu vois,
c'est pas notre sport, c'est notre discipline.
Non, mais est-ce qu'un sportif a besoin d'une seconde vie maintenant?
Oui.
Deux sportifs.
Je pense pas, non. Je pense que LeBron, quand il dit un truc pareil, c'est, tu vois, il faut 10 ans pour, tu vois, tu te fais pas tu t'improvises pas, tu passes pas du basket au saut en hauteur, ni en longueur. Enfin, tu vois, ça me semble chaud, quoi. Mais un athlète, comme Duplantis, qui a fait du lancer de poids quand il était gamin, forcément, qui a lancé au moins un 10, qui a fait du saut à la perche, qui sait courir, qui a appris à courir, qui fait de la perche, il est dans son jardin, tu vois, c'est pas la même chose. Et s'il se dit, tiens, j'irai, pourquoi pas, je vais flirter sur du sprint, sur des sauts, sur pourquoi pas un décat. Ouais, là, ça peut être entendable. Après, changer de discipline, mon Dieu,
On a l'exemple du Gallois.
C'est compliqué, quoi.
L'international Gallois qui veut faire qui est à la NFL.
NFL, oui, bien sûr.
Donc, qui s'essaye un autre sport. Alors, c'est un peu le cousin germain du rugby, mais bon, c'est quand même très différent. Et il s'en sort pas pour l'instant, mais il a eu de très bons, qu'on appelle ça, aux entraînements, de très bons tests.
Ok, très bon test. Juste,
moi j'ai des copains qui étaient lanceurs de poids et qui ont fait du rugby par la suite, tu vois, qui sont mis au rugby. Merluche, Olivier Merle vient de l'athlétisme, entre autres, et qui ont réussi ce genre de transition. Mais il lui a fallu du temps. Il est
Jérôme Thion, il vient du basket.
Jérôme Thion.
Marc, t'es le seul en activité, en tout cas, à gérer une équipe aujourd'hui. Est-ce que t'as des coureurs qui te disent, oh, mais moi, il faudrait peut-être autre chose?
Il y en a qui font de la piste. Ils font de la piste et de la route.
Du cyclocross, mais j'en ai un, Anthony Roux, qui a été champion de France sur route, qui aujourd'hui est triathlète professionnel.
Ah ouais.
Mais il a un niveau intéressant.
Mais par exemple, on reste dans la même gamme.
Comment?
Regarde, un garçon comme Benjamin Thomas.
Tu vois.
Benjamin Thomas,
oui, c'est un pistard,
champion olympique et vainqueur d'étapes sur les routes du Giro.
C'est bien route.
Ça se ressemble étrangement. Ouais.
Bon, voilà pour le débat caché. En tout cas, à propos de Mondo Duplantis, c'était l'une des images de la semaine et c'était important d'en parler dans cette émission. 11h45, c'est à vous de jouer. Le 32-16, vous venez affronter une GG, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Sur un thème du jour, vous venez lui dire tout de suite, maintenant. On revient sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec Marc Madiot, David Douillet, Christophe Cessieux, Denis Charvet. À partir de midi, restez bien avec nous, les paris RMC. Avec toute la Dream Team, évidemment, on parlera de France-Belgique. C'est lundi soir, le deuxième match de notre équipe de France après la défaite 3-1 hier soir face à l'Italie en Ligue des Nations. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous ?
Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, c'est simple, vous composez le 32-16 et vous venez lui dire en face. Justement, il a pris son téléphone parce qu'il a des choses à nous dire. C'est Fabrice, salut Fabrice.
Oui, bonjour.
Fabrice, tu vas affronter qui aujourd'hui ?
C'est pas spécialement David, parce qu'on m'a remonté vers David, mais c'était plutôt les médias en général sur les débats sur l'équipe de France.
Sur l'équipe de France. Bah, on va réécouter ce que disait notamment David sur l'équipe de France. Est-elle en crise, hein? C'était notre débat. On réécoute et après tu peux t'expliquer avec tout le monde.
Moi, je trouve que c'est pas un match d'alerte auquel on a assisté hier sur ces sujets-là. Il y avait l'euro. L'euro nous a déjà montré ça.
Oui.
Donc, en fait, le sujet, il est profond. C'est pas une mauvaise rentrée. C'est pas, j'ai raté un match. Non, c'est pas vrai.
Voilà, l'équipe de France était en crise pour David et ça date pas du match d'hier. Fabrice, on t'écoute.
Alors moi, quand je dis les médias, c'est que je mettais le point sur est-ce qu'on apprend des erreurs du passé. Parce que qu'est-ce que c'est une crise? Pour moi, je suis d'accord, le match d'hier, il est raté. Une crise, c'est 4 ou 5 défaites comme ça. Je reprends en arrière, je sais bien que les situations ne sont pas exactement les mêmes, mais Aimé Jacquet, Didier Deschamps, ok, Didier Deschamps, ça fait 10 ans qu'il est là, mais Aimé Jacquet, il sortait d'un Euro 96 demi-finale, des matchs fades, et après, Coupe du Monde 98, c'est Dieu Aimé Jacquet. Donc une crise, comme on dit, les mots ont un sens, c'est 4-5 défaites du type de celle qu'on vient de vivre. J'ai l'impression qu'on balaye vite fait le résultat. Alors bien sûr, on est tous d'accord pour dire sur le fond, il y a des choses à améliorer. Mais tout comme on peut pas juste dire il y a le résultat et donc on n'en parle pas, on peut pas juste dire les matchs sont pas bons et on balaye le résultat. Enfin, je veux dire, quand on fait Coupe du Monde 2018, finale de l'Euro avant, enfin ainsi de suite, vous le savez, et même finalement l'élimination contre la Suisse au pénalty, on peut le mettre à l'inverse. Peut-être que s'il n'y a pas de défaite au tir au but, peut-être qu'ils vont plus loin. Et pour prendre un autre parallèle, on reproche par exemple au PSG peut-être d'avoir viré Carlo Ancelotti trop tôt. En fait, c'est un peu schizophrène de reprocher ça. Les choses se font dans la durée. On verra bien dans 4 ou 5 matchs, s'il y a 4 ou 5 défaites de ce même type, là on parlera de crise. Mais si on prend pendant les Jeux Olympiques, est-ce que l'équipe de France de basket, au final, elle s'en est pas bien sortie? L'équipe de France de volley, lorsqu'elle perd 2-7-0 en Allemagne? Donc les sports collectifs, il y a un temps long et on réagit pas juste pour une défaite.
Ok, on entre sur la culture de l'instant et sur une défaite pour toi qui n'est pas symptomatique. David, tu peux répondre.
Les éditorialistes aiment bien dire, je l'ai dit avant les autres, mais laissons le temps et on verra après.
Ok, David, tu réponds quoi à Fabrice?
Fabrice, justement, et tout à l'heure je l'ai déjà dit, j'ai argumenté. Je suis pas sur un coup et j'aurais pas dit ça si on avait été surpris de cette contre-performance de l'équipe de France hier. Je suis sur la longévité et sur un aspect global de ce qui se passe dans les derniers matchs de l'Euro et ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que on a une équipe qui est terne, qui est un peu fade, qui manque d'énergie, qui manque de peps, qui manque de création, ça manque d'élan, quoi. Tu vois, c'est là-dessus que je dis que la crise existe. Il y a une crise profonde de gens qui sont dans une espèce de routine et je pense que Didier Deschamps s'en rend compte et la vraie question qui sera posée demain dans les GG, je fais déjà du teasing demain matin, c'est est-ce que Didier est encore en capacité d'enflammer l'équipe de France pour retrouver du génie et de la grande stratégie au sein d'une équipe qui nous a fait rêver parce qu'on a envie de rêver, de continuer à rêver avec eux.
Bah merci de nous faire un petit peu teasing. J'imagine comme ça Fabrice pourra nous rappeler demain au 32-16. Merci Fabrice d'être venu nous dire ce que tu pensais sur ce débat. Jérôme nous appelle également. Il veut se frotter à NGG. Bonjour Jérôme.
Salut NGG.
Jérôme, salut. On s'attaque à qui?
Alors, on s'attaque à Marc Madiot.
Sur quoi?
Attends,
avant de nous dire juste le sujet, avant de nous dire le fond de ta pensée, c'était quoi le sujet?
C'est sur David Godu, quand il en a parlé dans le « On s'en fout, on s'en fout pas ».
Ok, bah justement, on va réécouter ce qu'il nous disait sur David Godu. Ah, il est surpris, Marc, eh oui, tu vas devoir répondre devant la France entière. On réécoute ce que tu disais.
Il a été en difficulté, mais pour se reconstruire, ça passe par le physique, mais ça passe aussi par le mental. Il faut retrouver la confiance, la sérénité, et avoir des bonnes circonstances de course, et avoir la confiance de ses coéquipiers. Et c'est ce qui s'est produit progressivement pendant cette Vuelta, et on retrouve le vrai Godu. L'objectif maintenant, c'est de continuer.
Vas-y, t'écoute. Vas-y, Jérôme.
Donc, comme Marc, tu l'as bien dit, on retrouve le vrai Godu. Moi, je pense que, comme beaucoup de Français, on aime les cyclistes bleu-blanc-rouge, on aime David Godu, on sait qu'il est capable de suivre les tout meilleurs. Il a rien à envier à des masses, des carapaces. Alors, Roglic, c'est peut-être un peu au-dessus, mais il a rien à envier à ces coureurs-là. Est-ce qu'il serait pas temps, Marc, peut-être, au niveau mercato, de lui mettre une vraie équipe autour de lui? Parce que hormis Valentin Madouas et peut-être Quentin Paché, des coureurs capables de l'emmener vraiment dans l'école et de pouvoir rouler à l'économie, il n'en a pas tant que ça. Il est un peu obligé de rouler tout seul. Alors est-ce qu'il y a une problématique financière et qu'aujourd'hui Bahreïn, UAE, de la Jumbo, c'est beaucoup trop riche et c'est impossible de faire venir des équipiers de luxe entre guillemets? Ou est-ce qu'il n'y a pas un choix dans la politique chez FDJ pour vraiment que David puisse faire des podiums, quoi?
Ah, c'est intéressant, ça.
Il y a plusieurs questions en une.
T'es dans les cordes ou pas, Marc?
Pas du tout.
Vas-y, Marc.
Dans l'équipe, il y a d'autres coureurs que tu n'as pas cités, des Romain Grégoire ou des Stéphane Kung, entre autres, qui sont capables d'accompagner David et de participer à la vie collective de l'équipe. Ça, c'est une chose. Et puis, sur le Tour d'Espagne, David n'a jamais été isolé et en solitaire. Il y a toujours eu Quentin Paché, il y a toujours eu Stéphane Kung, et même un Rémi Rochas au début du Tour d'Espagne. Ce qui fait que l'équipe, elle est cinquième du classement par équipe, parce que c'est toujours assez peu regardé, mais quand on regarde le classement par équipe sur un grand tour, on a quand même une idée du niveau moyen de l'équipe, et aujourd'hui on est la cinquième équipe sur cette Vuelta, donc on est à un très bon niveau, on est juste derrière les mastodontes. Alors c'est vrai que quand on est face à des équipes comme Jumbo ou UAE, on est forcément avec des effectifs moindres.
T'essaies de nous endormir, Jérôme. Je le connais par cœur.
Marc, est-ce que en mettant des équipiers de luxe à Godus, ça lui ferait gagner le Tour de France ou le Tour d'Espagne?
Moi, voilà, c'est ça la question.
Moi, aujourd'hui, non.
Non.
Aujourd'hui, non. Après, le problème du cyclisme aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 ou 5 équipes mastodontes soutenues par des États ou des émirs ou des sponsors mondiaux qui font qu'il y a une différence de niveau de budget par rapport aux équipes françaises. Mais il faut savoir aussi, mais c'est le même problème dans le football et on l'évoque souvent, dans le football comme dans le cyclisme, nous, tout coûte 40% plus cher, hein.
Mais ce que dit Jérôme, c'est est-ce que ça te fait réfléchir ce que vient de faire David Godu sur la Vuelta?
Non, j'ai juste envie que les choses continuent dans la même direction avec David. Il y a les championnats du monde qui arrivent derrière et j'espère qu'il aura la chance, j'ai pas trop de doute là-dessus, d'être sélectionné pour le mondial. Ensuite, il y aura une course comme le Tour de Lombardie où il peut jouer les premiers rôles et jouer la gagne. Après, on sait qu'on a des limites par rapport à d'autres concurrents comme les Pogacar, entre autres. Mais on peut exister et on peut vivre. Alors de là à gagner le Tour, sans doute pas, mais on peut faire de belles choses et réaliser de belles performances, même si on n'est pas sur un terrain d'égalité au niveau business et économie de notre sport.
Et au niveau talent, c'est pas Pogacar, c'est pas Vingegaard, c'est pas Roglic, mais c'est un très bon coureur pour faire entre 5 et 10 dans le Tour de France, je pense.
Voire mieux, parce qu'il a quand même fait
une année particulière.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous, d'avoir composé le 32-16. Ça y est, celui qui s'écharpe sur David Godu.
Ah non, je peux pas laisser passer ça.
Oui, t'inquiète pas, vous avez le temps d'en rediscuter juste après. Merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Merci Jérôme. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à appeler, à composer le 32-16 et à venir affronter une GG. On se retrouve dès demain à partir de 9h, mon cher Christophe.
Ah bah oui, volontiers. Okay. Et puis cet après-midi, il y a le rugby qui commence, le top 14 et tout et ça. Oui. Hein.
À partir de 16h30, vous serez
pendant que tu seras au cirque ou je sais pas où là.
Avec Christophe.
À préparer Interville.
Oui, c'est vrai, j'espère. J'espère que le téléphone va sonner. 11h57, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. Passez une très belle journée. Allez, tu restes à l'écoute d'RMC. Allez, salut les copains. Non, tu restes. Denis est avec nous, à tout de suite.